de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Chers amis, bonsoir. Voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. Singapour a bon espoir de rester le centre de l'aviation mondiale. Les ministres des Affaires étrangères de la Chine et de l'Indonésie réitèrent leur soutien à la coopération en matière de vaccination. Le gouvernement coopère avec le Royaume-Uni pour réaliser une énergie à faible émission de carbone. Banyuwangi a un scénario de développement touristique clair. Luhut soutient la reprise du tourisme à Bali. Voici le bulletin complet. Le ministre des Transports de Singapour, Ong Ye Kung, a assuré que son pays resterait le centre de l'aviation mondiale, même après la fin de la pandémie du COVID-19. Bien que la situation actuelle soit très difficile pour l'industrie aéronautique, le gouvernement de Singapour continuera de donner la priorité à son secteur économique phare. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Transports et divers ministères travaillent ensemble. Comme l'a déclaré Ong Ye Kung après avoir assisté à l'inauguration du projet Link Rapid Transit System récemment, Ong Ye Kung tentera de négocier la ceinture verte avec un certain nombre de pays. En accordant la priorité au secteur, Singapour est confiant de pouvoir restaurer le monde de l'aviation qui a été dévasté par la pandémie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et son homologue chinois Wang Yi ont affirmé le soutien de la coopération des deux pays dans le développement du vaccin COVID-19. Retno Marsudi a déclaré qu'elle acceptait de continuer à renforcer la collaboration internationale dans la gestion du COVID-19, en particulier pour assurer la chaîne d'approvisionnement en matières premières pour la production de médicaments et le développement de vaccins. C'est ce qu'a déclaré Retno Marsudi après avoir tenu une réunion bilatérale virtuelle avec Wang Yi récemment. La collaboration pour le développement de vaccins a été réalisée grâce à une collaboration entre PT Bio Pharma et Sinovac, une société chinoise qui mène des essais cliniques de la troisième phase des vaccins candidats COVID-19. En attendant la fin de l'essai clinique, des préparatifs pour la prochaine étape de production sont également menés. En termes de capacité, PT Bio Pharma cherche à augmenter la capacité de production de 150 millions de doses à 250 millions de doses par an. Le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales collabore avec le gouvernement britannique pour lancer le programme Mentari, ou vers la transition énergétique bas carbone de l'Indonésie, afin de soutenir les efforts visant à restaurer une économie respectueuse de l'environnement en Indonésie. Le programme, a été officiellement lancé par le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, Ego Shahrial, virtuellement témoigné par l'ambassadeur britannique à Jakarta, Owen Jenkins. Ego Shahrial a déclaré que dans ce programme, le gouvernement britannique partagera son expérience avec l'Indonésie concernant les projets d'énergie renouvelable. De cette façon, l'Indonésie peut atteindre l'objectif de mix énergétique en Indonésie de 23% en 2025. Cependant, l'ambassadeur britannique Owen Jenkins a déclaré que l'Indonésie avait le potentiel de devenir une superpuissance dans le secteur de l'énergie respectueux de l'environnement. Il espère que Mandari pourra soutenir la transition énergétique en Indonésie pour faire face aux défis de la reprise économique mondiale qui entre dans une décennie critique dans la lutte contre le changement climatique. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Wisnutama Kusubandio, a apprécié ce que le gouvernement de la région Banyuwangi, Jawa Est, a fait dans le développement du secteur du tourisme en impliquant la communauté et en ayant un scénario clair. Le tourisme doit avoir une stratégie comme celle de Banyuwangi qui consiste à autonomiser et à déplacer les gens pour stimuler le secteur du tourisme. Le ministre Wisnutama, dans une déclaration écrite, a déclaré jeudi que chaque région doit avoir une stratégie de développement touristique comme Banyuwangi, donc non seulement une destination et ensuite une promotion. Le ministre du Tourisme Wisnutama apprécie Banyuwangi en lançant un programme qui peut accélérer le secteur du tourisme régional, dont l'un consiste à revitaliser les installations des attractions touristiques ou des communautés dans un certain nombre de points d'attractions touristiques de la pointe orientale de l'île Java. Le ministre de la Coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a soutenu la reprise du tourisme à Bali dans la déclaration du programme de tourisme dans la nouvelle ère de la vie à Bali et de la numérisation du tourisme basée sur le code standard indonésien de réponse rapide qui s'est tenu à Nusa Dua, Bali. Par une déclaration écrite à Jakarta vendredi, Luhut a déclaré que Bali et le tourisme sont deux entité en errante et inséparable. Il est maintenant temps que cette économie commence à se redresser. Cependant, Luhut a également mentionné que la possibilité de la province Bali sera fermée s'il y a un endroit qui devient une zone rouge. Luhut a déclaré que le tourisme est l'un des domaines très prisés par le gouvernement. C'est parce que les revenus de l'État grâce au tourisme sont très élevés, outre d'être capable de créer des emplois. Cher ami, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Cher ami, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Pekanbaru, Riau. Le ministère de l'Environnement et des Forêts par l'intermédiaire du Centre de conservation des ressources naturelles BBKSDA de la province Riau a accepté de travailler avec la Fondation Arsari Joyo Hadikusumo pour construire un centre de conservation des tigres Sumatra dans le sanctuaire de faune Giam Siak Kecil. Le chef de BBKSDA Riau, Suharyono, a déclaré mercredi à Antara, à Pekanbaru, que la construction du centre de conservation du tigre Sumatra dans la province Riau devrait être réalisée compte tenu des problèmes qui se sont produits jusqu'à présent avec les tigres Sumatra. La construction du centre de conservation du tigre Sumatra sera effectué dans la réserve faunique Giam Sia Kecil, village Tasik Betung, district Sungai Mandau, région Siak. La coopération comprend la réserve faunique Bukit Batu, le village Temiang, le district Bukit Batu, la région Sbengkalis, en particulier pour la conservation des espèces et de l'habitat des tigres Sumatra, soit Panthera tigris sumatrae, en particulier dans les habitats des écosystèmes des marais tourbeux. Le contexte de cette collaboration est l'intensité des conflits entre les tigres Sumatra et les hommes qui se produisent souvent dans la province Riau. L'absence de sites de réhabilitation pour les tigres Sumatra en province Riau, la forte menace de braconnage et d'activités illégales, les changements, la dégradation et la fragmentation de l'habitat qui se produit. Selon Suaryono, des efforts de prévention ont été menés en tenant le patrouille de routine. Suaryono a estimé que l'avantage d'un centre de conservation à construire à Riau et son emplacement dans la zone centrale de la réserve de biosphère Bukit Batu Giam Sia Kecil, qui compte environ 200 000 hectares de forêt primaire de tourbières marécageuses, d'abondantes populations d'animaux proies et le soutien du gouvernement local. Ensuite, l'info de Gianyar Bali. Le directeur de Zoo Bali, situé en région Gianyar Bali, commémore l'accueil de la Journée internationale du tigre en 2020 en fournissant un enrichissement alimentaire sous forme de gâteaux à plusieurs niveaux à base de bœuf. Les relations publiques du Zoo Bali, Emma Chandra, à Gianyar a déclaré mercredi qu'à travers la commémoration de la Journée internationale du tigre, le Zoo Bali aimerait à sensibiliser le public aux efforts de conservation pour continuer à préserver le tigre Sumatra. Dans cette activité, des gâteaux à base de bœuf ont été donnés à deux tigres de Sumatra nommés Pandeka, un tigre de 6,5 ans, et Shan, une tigre de 7,5 ans à Tiger Trail Kampung Sumatra, Zoo Bali. Activité d'enrichissement réalisée pour stimuler la motricité, aiguiser l'odorat et l'instinct de chasser des tigres pour continuer à se comporter comme dans leur habitat naturel. La dernière, l'info de Semarang, Java Central. Deux étudiants de l'université Dian Nuswantoro à Semarang ont réussi à créer le Smart Boy Vocabs Master, une application de jeu pour faciliter l'apprentissage et enrichir le vocabulaire en anglais. L'un des créateurs de Smart Boy Vocabs Master, Rizal Fajar Amiardi, a déclaré mercredi que le jeu de genre de Tower Defense, combiné à la fois action et capacité à parler anglais. L'étudiant du programme de génie informatique a collaboré avec Ahmad Abdul Hadi du programme d'études en animation. Selon Rizal, les joueurs de ce jeu n'auront aucune difficulté à jouer car des réponses sont fournies. Le joueur qui répond correctement à la question passera directement au niveau suivant. Les deux étudiants de l'université Dian Nuswantoro ont également amené un étudiant de l'Université d'État Semarang, Krishno Febrianto, qui était chargé de créer des personnages et des intros dans l'application. On s'attend à ce que l'existence de cette application de jeu aide les Indonésiens à apprendre l'anglais ainsi qu'à les éduquer. L'application qui porte la graphie en trois dimensions a pu remporter l'événement Festival Mobile Ki Hajar 2020. Cette application peut également être téléchargée gratuitement sur la page Centre de développement de multimédia pour l'éducation et la culture. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 1er août. Le 1er août 1933, Soekarno a été arrêté et exilé à ND, Flores, Nusa Tenggara Est. L'exil des combattants de la liberté Soekarno a commencé par une réunion politique au domicile de Muhammad Husni Tamrin à Jakarta le 1er août 1933. Soekarno a été arrêté par un commissaire de police lorsqu'il a quitté la maison de Muhammad Husni Tamrin et a ensuite été emprisonné pendant 8 mois sans procès. Le 28 décembre 1933, le gouverneur général du gouvernement colonial des Indes orientales néerlandaises, De Jong, a publié une lettre d'exil de Soekarno, qui avait 32 ans à ND Flores, Nusa Tenggara Est. Soekarno a été exilé à ND parce que ses activités politiques mettaient en danger le gouvernement colonial des Indes orientales néerlandaises. Pendant son séjour à ND, de 1934 à 1938, l'un des événements importants a été quand Soekarno, sous l'arbre Sukun, a pensé à la base de l'État qui a ensuite été formulée en Pancasila en 1945. Ensuite, le 1er août 1946, la Commission de l'énergie atomique des États-Unis a été créée pour superviser le développement de la bombe atomique. La Commission de l'énergie atomique des États-Unis est une institution gouvernementale des États-Unis créée après la Seconde Guerre mondiale par le Congrès. La création de cette commission visait à encourager et à superviser le développement de la technologie pacifique et de la science des atomes. Le président américain Harry S. Truman a signé la loi McMahon sur l'énergie atomique le 1er août 1946. Cette loi détermine, entre autres, comment les États-Unis contrôlent et supervisent la technologie nucléaire et créent à cette fin la Commission de l'énergie atomique des États-Unis. Le 1er août 1980, Vigdis Vinbogadottir est devenue la première femme au monde à être élue présidente aux élections générales. Vigdis Vinbogadottir a été élue présidente de l'Islande le 1er août 1980 et a été la première femme présidente d'Islande et la première femme chef d'État en Europe. Avec un temps de leadership atteignant 16 ans, elle est également la plus longue femme chef d'État au monde. Vigdis Vinbogadottir a remporté la première élection en battant trois autres candidats masculins et se concentrant sur des programmes éducatifs et culturels. Elle a ensuite exercé ses fonctions de présidente au cours des trois périodes suivantes, jusqu'en 1996. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Jiwaku terpaku padamu saat jumpa engkau senja itu, ku hela nafasku dan membisu, kereta cepat, kagumi parasmu tua. Ingin ku mencoba mendekapmu, kala pandang kita beradu. Malam pun menjadi saksi bisu kita.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie, ayant pour titre « Le gouvernement lance une garantie de crédit aux entreprises ». Après que le gouvernement indonésien ait lancé diverses installations et une aide financière pour les micro, petites et moyennes entreprises, MPME, face à l'impact de la pandémie COVID-19, le gouvernement a maintenant lancé un soutien aux entreprises. Le soutien est fourni sous forme de garantie de crédit aux entreprises par l'intermédiaire de l'Agence indonésienne de garantie des exportations, LPEI, ou Indonesia Exim Bank, et le Fonds indonésien de garantie des infrastructures, PII. La garantie de crédit aux entreprises de 5 trillion rupiah a été lancé le mercredi 29 juillet au ministère des Finances à Jakarta. Le lancement a été marqué par la signature d'un protocole d'accord entre le LPEI et PII avec 15 banques bénéficiant de garanties de crédit aux entreprises en présence du ministre chargé de la coordination des affaires économiques, Erlangga Hartarto, de la ministre des Finances, Sri Mulyani, et du président du Conseil des commissaires de l'autorité de services financiers, Wimbo Santoso. À cette occasion, la ministre des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que le programme de garantie du gouvernement pour les prêts de fonds de roulement au secteur des entreprises est devenu un catalyseur de la reprise économique des effets du COVID-19. Selon Sri Mulyani, il est impossible pour l'économie de croître sans la relance du secteur privé des entreprises. Par conséquent, le gouvernement fournit un catalyseur avec des garanties. Selon Sri Mulyani, les entreprises peuvent accéder à un fonds de roulement allant de 10 milliards à 1 billion rupiah. La facilité de garantie des prêts pour fonds de roulement des entreprises est destinée aux entreprises qui ont des entreprises orientées vers l'exportation et ou à forte intensité de main-d'œuvre avec un minimum de 300 employés. Les entreprises garanties ne sont pas incluses dans les catégories entreprises publiques et PME ne sont pas incluses dans la liste des affaires juridiques et ou des réclamations de faillite et ont un prêt productif actuel avant la pandémie COVID-19. Sri Mulyani a expliqué que le gouvernement garantirait 60% des prêts de fonds de roulement et les 4% restants seraient supportés par les banques pour les entreprises avec les secteurs non prioritaires. Pour les entreprises ayant des secteurs prioritaires, 80% seront garantis par le gouvernement et les 20% restants seront supportés par les banques. Les secteurs prioritaires comprennent le tourisme, l'automobile, les produits textiles et textiles, la chaussure, l'électronique, le bois traité, les meubles, les produits en papier et les secteurs d'activité à forte intensité de main-d'œuvre touchés par le COVID-19. À la même occasion, le ministre de la Coordination de l'économie, Erlangga Hartarto, a déclaré que le secteur des entreprises était important pour ramener le chômage à un niveau sain, car pendant la pandémie, de nombreuses personnes ont été touchées par des licenciements. Il espère qu'avec cette garantie de crédit, l'économie indonésienne au quatrième trimestre pourra être soutenue par un étirement des entreprises. Cher ami, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Begini, jantungku berdetak sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elok parasmu, membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu. Tapi oh,
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz, 4750 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, bonsoir. Voici le magazine culturel introduisant le poisson asar culinaire traditionnel d'Ambon, Moluk. C'est temps complet lorsque vous venez à Ambon sans goûter le poisson asar galala, le plat culinaire le plus emblématique des villes d'Ambon et de Moluk. Le poisson est appelé asar galala car il est connu depuis l'Antiquité que le village galala est centre de pêche. Les ingrédients de base du poisson asar sont généralement le poisson cakalang, le poisson à queue jaune ou le thon. Du poisson avec une texture de viande suffisamment dense pour ne pas être cassante lorsqu'elle est fumée. Fondamentalement, le poisson asar est du poisson fumé. Ce qui distingue et unique, c'est comment le fumer. Si le poisson fumé est généralement placé horizontalement sur la fumée, asar est placé en diagonale du côté des braises qui produisent de la fumée. Ceci est fait pour que le poisson soit complètement sec et cuit sur les côtés de la viande. Cela signifie qu'il n'y a plus de teneur en eau stockée dans la viande car elle a chuté lorsque la position du poisson est inclinée. Le processus de cuisson est assez simple. Après avoir nettoyé les intestins, le poisson est poignard avec du bambou et prêt à être fumé sur le poêle. Fumé longtemps pendant environ 4 à 5 heures et effectué dans une pièce fermée de sorte que la fumée s'infiltre dans la viande jusqu'à ce qu'elle soit complètement cuite. Le poisson asar a un goût extraordinaire. La chair de poisson salée est savoureuse et l'arôme est si appétissant. Le poisson asar est très approprié pour être dégusté avec du riz chaud et du chili cholo-cholo, un piment typique de Moluk à base d'oignon, de piment, de basilic et de citron. Chers amis, c'était le magazine culturel.
Aku takut matamu dan hatiku. hadirmu, ku telah sempurna mencintaimu.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et en petit titre. Les étudiants de l'Université d'Indonésie, UI, gagnent des navires à économie d'énergie de classe mondiale. 12 étudiants de la faculté d'ingénierie de l'Université d'Indonésie, FTUI, qui ont rejoint l'équipe UI Hydros, ont remporté le premier prix du prix Coup de cœur en tant qu'équipe la plus favorite du concours Solar and Energy Boat Challenge 2020 Online Edition. L'équipe Hydros UI transporte le navire catamaran avec l'innovation utilisant des sources d'énergie respectueuses de l'environnement. Ce concours de navires à économie d'énergie de classe mondiale se tient en ligne pendant 9 jours, du 30 juin au 8 juillet 2020. Le concours, qui se tient généralement à Monaco chaque année, est maintenant devenu une édition en ligne du concours en raison de la pandémie COVID-19. Si au cours de l'année précédente, les participants ont concouru dans trois classes, trois catégories de courses et quatre catégories hors course, les participants s'affrontent maintenant seulement dans la catégorie hors ligne. Ce prix a été décerné sur la base de l'évaluation par les juges de la préparation, de l'innovation et de l'esprit d'équipe au cours de la période d'un an en préparation de la participation à l'édition en ligne de la compétition organisée par le Yacht Club de Monaco. L'équipe Hydros UI a conçu un bateau catamaran, soit un navire à deux coques d'une longueur totale de 5 mètres. La conception du navire est également équipée d'un cockpit, d'un système d'hélice de navire, soit système de propulsion électrique avec l'aide de panneaux solaires de 500 WP comme puissance supplémentaire. Avec un poids de 230 kg, ce navire utilise également une batterie de 5 kW comme source d'énergie respectueuse de l'environnement et un panneau solaire de 2,5 mètres carrés qui peut stocker plus d'énergie et aller deux fois plus vite. D'autres innovations développées cette année sont des mises à jour sur la conception de la coque du navire l'utilisation de matériaux entièrement en fibre de carbone dans le cockpit du navire, des modifications de conception des matériaux et des mécanismes de gouvernail et d'hélice pour améliorer l'efficacité des systèmes de propulsion des navires, des changements dans le matériau de montage du moteur, l'utilisation de systèmes LoRa, soit long range, c'est-à-dire l'utilisation d'une technologie sans fil à faible consommation et à faible coût qui permet le transfert d'informations dans un rayon de dizaines de kilomètres, et l'utilisation d'un système de surveillance de l'alimentation pour la prise de décision en temps réel pendant une course. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Voici le magazine musical et cette édition, je vous présente une chanson de Kroncong intitulée Petir, créée par Sari Wono. Cette chanson originale de Kroncong raconte quelqu'un qui essaie de tenir une promesse de rencontrer sa petite amie. Bien qu'il pleuve ainsi que la foudre et le vent fort,
Il a quand même passé car il voulait rencontrer son amant qu'il avait depuis longtemps quitté. Bon, chers auditeurs, voici Mira Tania, dont le titre est Petir ou en français La Foudre.
Of Indonesia.
gagah bineka tunggal ika. Kami perlambangkan. Dengarlah seruanku dengan gaya daya, junjung tinggi budaya kita agar tetap jaya.
Bonjour auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.